Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour une émission exceptionnelle cet après-midi depuis la maison de Gustave Moreau. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Bienvenue dans le temple du symbolisme, dans la maison des sphinges et des licornes, des Salomé diaphanes et des Orphées longilignes, dans des décors scintillants de Byzance, un rien moisi, déjà décadente, dans le foyer des minuscules divinités et parfois de très grandes aussi, vous verrez. Voyez ces forêts d'ocre et de bistre, ces architectures de velours froissé. Voyez ces crépuscules de saphir et de lapis lazuli. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Il y a bien longtemps, je dois vous le dire, que j'avais envie de vous proposer cette émission dans un de mes endroits préférés à Paris. J'y venais il y a 20 ans, 25 ans maintenant, ça ne rajeunit personne. Je venais souvent flâner, me ressourcer dans cet univers si particulier du grand peintre Gustave Moreau. Nous sommes ici dans l'inspiration débridée, dans le fantasme et dans la fantasmagorie. À l'époque, on ne visitait pas ou peu le rez-de-chaussée qui vient de rouvrir dans cette maison-musée de Gustave Moreau, maison-musée de l'artiste qui est ici partout présent au cœur de ce quartier tellement extraordinaire, le vrai quartier 19e de Paris, celui de la Nouvelle-Athènes, où se bousculait pendant tout le milieu du 19e siècle ce que la France pouvait produire de plus inspiré. Nous allons visiter dans un instant l'appartement de Gustave Moreau. Nous allons voir ses ateliers, des ateliers qui ont été transformés en musée de son vivant. C'est une des particularités de cette maison extraordinaire. Un musée riche de quelque 25 000 œuvres qui certes ne sont pas toutes exposées. Et quand je dis 25 000 œuvres, dont une quinzaine de milliers de la main même de Gustave Moreau. Ce que vous entendez là, c'est la sonnette d'entrée. Évidemment, vous allez entendre un peu de bruit dans ce musée qui est ouvert au public. Ça, c'est tout le charme de ces émissions in situ. De grandes toiles, dont certaines inachevées, mais aussi de toutes petites, des huiles, des gouaches, des aquarelles, des dessins, beaucoup de dessins, des mines de plomb, pour certaines rehaussées au blanc de céruse. J'ai là sous les yeux une Leda extraordinaire, à côté d'une fée au griffon qui paraît une ébauche, mais qui en fait a dû être conçue ainsi par l'artiste et une Circé, etc. Vous verrez que c'est toute une mythologie revue à la sauce décadente de la fin du 19e siècle qui est ici sur ces murs à profusion, dans un brillant, dans un miroitant, dans un envoûtant capharnaüm. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, valse mélancolique et langoureux vertige.
Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Bonjour Marie-Cécile Forest.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir ici chez Gustave Moreau. Nous sommes au rez-de-chaussée de la maison qui pendant très longtemps a été fermée. Vous avez décidé de rouvrir ces salles à la visite et elles sont une belle découverte pour les promeneurs.
Voilà, absolument. En fait, les salles du rez-de-chaussée étaient ouvertes à la visite à l'origine du musée en 1903. Elles ont été fermées pendant des années et nous avons souhaité les réhabiliter dans l'état d'origine du musée, c'est-à-dire avec des couleurs comme au 19e siècle.
Vous avez retrouvé en fait les couleurs, c'est-à-dire globalement on est dans les bruns et dans les marrons hein, pour ce qui est des peintures, des balambris, des huisseries. Les papiers peints, vous les avez retrouvés aussi, reconstitués ?
On les a retrouvés ici dans cette salle, on a retrouvé des damas que nous avons fait refaire à l'identique en Angleterre, selon un savoir-faire du 19e siècle. Et si vous voulez, le charme de ce rez-de-chaussée, c'est cette dualité qui court partout ici, de la maison et du musée.
Voilà, vous me disiez, quand je suis arrivé tout à l'heure, nous sommes là devant une petite cour, une courette, comme on en trouve beaucoup dans Paris, et vous me disiez qu'à l'origine, il y avait même un poulailler. Vous n'avez pas été jusqu'à reconstituer le poulailler,
en fait. Non, on n'est pas allé jusqu'à reconstituer le poulailler, mais peut-être qu'on pourrait vendre les œufs, effectivement.
Ce qu'il y a de fascinant dans cette maison-atelier-musée de Gustave Moreau, c'est qu'elle a été conçue comme une sorte de jeu, en quelque sorte. On a partout des tirettes, des glissières, des volets. On peut parcourir en quelque sorte des œuvres simplement en tournant ces volets, en tournant ces lambris, comme on le ferait des pages d'un album en vérité. Et chaque visiteur découvre lui-même de petits trésors.
Voilà, c'est ce que Salvador Dali appelait les placards truqués du musée Gustave Moreau, puisque le musée Gustave Moreau est un haut lieu du surréalisme.
Alors, il fut un temps où on les aurait entendus grincer. Moi, quand je venais autrefois, on les entendait grincer, mais là, on voit que tout a été restauré. Ça ne fait même pas de bruit quand on tourne les pages.
Ça ne fait pas de bruit, voilà.
Alors, je vous propose de passer dans une des salles de ce rez-de-chaussée. Qui avait-il du temps de Gustave Moreau dans ce rez-de-chaussée ?
En fait, du temps de Gustave Moreau, c'était un appartement qui était loué soit à des locataires, soit à son légataire universel, Henri Rupp, qui a présidé justement à l'aménagement de ces espaces.
Alors, il faudra qu'on reparle de Rupp tout à l'heure. Toujours le même principe, hein, au fond de la salle, d'abord une cimaise avec deux grandes toiles, et quand on ouvre cette cimaise, et bien derrière, de la même façon, des volets amovibles. On va passer dans une petite pièce avec... Alors, j'ai oublié de dire, Marie-Cécile Forest, que vous êtes la directrice. Je pense que de nos auditeurs auront compris que c'est vous qui nous accueillez ici. Et je suis heureux d'accueillir quelqu'un que les auditeurs d'Europe 1 connaissent vraiment bien, puisqu'il est toujours notre consultant pour les beaux-arts, si je puis dire. Bonjour Serge Lega.
Bonjour Franck.
Il faut dire que vous avez été, vous, le vice-président de l'association des Amis de Gustave Moreau.
J'ai eu ce plaisir,
vous
absolument.
Vous êtes un tout petit peu chez vous ici. Alors, on continue à marcher dans ces couloirs. Ce sont des pièces un peu étroites, un peu étriquées. C'est ce qu'il y a de fascinant et de poétique dans ces lieux. Alors là, on doit entendre, aux différences d'écho, que nous entrons dans une petite pièce qui est littéralement couverte de toiles. Comment pourrait-on les qualifier ? Elles sont presque modernes déjà, presque abstraites. On peut ouvrir d'ailleurs, on va tirer ce volet, et là on a derrière ce lambris des toiles qui sont carrément abstraites.
C'est une partie tout à fait étonnante du musée, puisqu'effectivement ce sont dans ces meubles que l'on peut découvrir, j'allais dire, la partie cachée de l'iceberg que représente Gustave Moreau. C'est-à-dire qu'à côté du peintre, qui est le peintre symboliste par excellence, c'est évidemment dans ces meubles que l'on voit ce que l'on appelle les ébauches abstraites,
incroyable.
Et qui sont évidemment l'une des ouvertures vers la modernité que représente Gustave Moreau. On parlera bien sûr de son atelier aux Beaux-Arts et la façon dont il va préparer toute la génération des fauves à venir, mais quand on découvre ces nouvelles salles ouvertes à la visite grâce à Marie-Cécile Forest, évidemment on découvre aussi qu'il y a une ouverture vers l'abstraction.
Et on pourrait croire que ce sont des ébauches ou que sais-je, mais en fait toutes ces petites toiles abstraites ont été soigneusement encadrées, ce qui prouve bien que l'artiste les considérait comme des œuvres achevées.
Et ce qui les légitimise, j'oserais dire, puisqu'elles deviennent ainsi des œuvres à part entière.
Qui était-il, ce Gustave Moreau ? Comment vivait-il ? Comment est née cette maison, atelier, musée ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, depuis le musée Gustave Moreau pour la suite de votre récit sur la création du musée.
J'ai beau réfléchir, Céline, je ne pense pas avoir jamais eu d'aussi joli décor pour faire un récit depuis les 12 ou 13 ans que nous officions sur les ondes d'Europe 1. C'est tout à fait extraordinaire d'être dans cet atelier musée de Gustave Moreau, au milieu de toiles absolument extraordinaires. Il faudrait, ce que je vous invite à faire, avoir tout le temps de venir les détailler, car au-delà des compositions, des grands ensembles, de l'impression générale, c'est bien entendu dans le détail que va souvent se nicher le génie du maître. Il était né, ce Gustave Moreau. Vous entendez peut-être un peu de bruit derrière moi, c'est que, encore une fois, le musée est ouvert à la visite, hein. Il y a même des conférences en ce moment même. L'artiste naît en 1826 à Paris, et il faut vous dire que lorsqu'il a 13 ans, sa sœur, son unique sœur, qui avait un an de moins que lui, vient à mourir. Et à partir de ce moment-là, c'est un vrai traumatisme dans la famille Moreau. Ses parents vont se concentrer, si je puis dire, sur ce fils unique qui, du reste, a lui-même une santé assez fragile, et on va le mettre dans un cocon, on le retire du collège, du reste, et c'est son père lui-même qui va lui faire la classe, si l'on peut dire. Son père est un architecte, c'est lui qui lui enseigne cette culture classique dont Gustave va être littéralement pénétré. Alors, il dessine déjà beaucoup, il va fréquenter l'atelier privé du peintre néoclassique François-Édouard Picot. On dira un mot tout à l'heure de Picot. Or, ce qu'il faut faut dire, c'est que cet atelier, il est tout près d'ici, il est au 34 de la rue de la Rochefoucauld, puisque nous sommes, nous, ici, rue de la Rochefoucauld, et encore une fois, dans ce qui a été, à cette époque-là, la Nouvelle Athènes. On appelait ça la Nouvelle Athènes par référence à la concentration de grands esprits qui se trouvaient là, un peu comme dans l'Athènes classique de Périclès. On peut dire que ce cœur du 9e arrondissement était au 19e siècle, qui d'ailleurs à l'époque c'était pas encore le 9e arrondissement, mais enfin ça je ferme cette parenthèse, c'était le QG de tous les artistes autour de la rue de la Rochefoucauld, de la rue Fontaine, rue Pigalle, rue Saint-Georges, rue de la Tour des Dames qui est là juste à côté puisque on est au bout de la rue de la Tour des Dames où avait résidé le grand comédien Talma notamment, etc. Alors, Gustave n'a pas reçu un enseignement classique, vous l'aurez compris. Il va bientôt faire un premier voyage dès 1841 en Italie. Il a 15 ans, ça le marque fortement. Il est admis aux Beaux-Arts 4 ans et demi plus tard. Il quittera l'école après 3 ans, j'ai envie de dire infructueux, puisqu'il ne parvient pas à décrocher ce fameux prix de Rome. Il devient copiste au Louvre, il va recevoir un certain nombre de commandes de l'administration des Beaux-Arts, et ses parents, en 1852, voilà la date qui nous importe aujourd'hui, en 1852, ses parents lui achètent une petite maison particulière, donc rue de la Rochefoucauld, au 14 de la rue. Deux étages surmontés d'un comble, tout ça sera peu à peu transformé, bien entendu. En 57-59, vous voyez, en plein Second Empire, Gustave effectue un second voyage en Italie, Rome, Florence, Milan, Venise, dont il va faire son miel, véritablement, tout ça aux frais de son père, hein, puisque vous comprenez bien qu'il ne gagne rien. D'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure, il avait un grand mal à vendre ses œuvres, donc il ne voulait pas les vendre. Donc, il fallait bien que quelqu'un subvienne à ses besoins. Ce sont ses parents qui sont là pour cela. Tout de même, assez vite, notamment après la mort de son père, on va mettre en location une partie de la maison, le rez-de-chaussée et puis plus tard même le second étage. Alors, il faudrait parler des amis de Gustave Moreau, nous allons y venir tout à l'heure. Je pense à Théodore Chassériau, évidemment. Je pense à l'influence que pourra avoir un peintre comme Degas aussi, peut-être. On dira un mot d'Alexandrine Dureux, ça c'est peut-être l'un des mystères de la vie de Gustave Moreau. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il ne devient un peintre reconnu que sur le tard. C'est en 1864 qu'il va présenter au salon son Œdipe et le Sphinx, d'ailleurs œuvre acquise par le prince Napoléon. 5 ans plus tard, il présentera Prométhée, il présentera l'Enlèvement d'Europe. C'est amusant de parler de tout ça devant les toiles elles-mêmes. Les critiques sont quand même très violentes. Gustave Moreau ne fait pas partie des artistes immédiatement et facilement accueilli par son époque. Il faut attendre l'exposition internationale, qui est une semi-exposition universelle de 1878 pour qu'il expose 6 œuvres. L'année suivante, 79, il se lance dans l'illustration des fables de La Fontaine. Là, ce sont 64 aquarelles dont nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure. Il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1888. Il devient professeur à l'École des Beaux-Arts dans la foulée, hein, 92, 13, 14, etc., où il va d'ailleurs succéder là à son ami Élie Delaunay. C'est la mort d'Élie Delaunay, probablement, qui va le conduire à créer lui-même son propre musée. Il a été déjà marqué en 1856 par la mort de Chassériau, et en 62, voilà ce qu'il écrit. 62, c'est l'année de la mort de son père, c'est donc très important. Il écrit ce soir, 24 décembre 1862, « Je pense à ma mort et au sort de mes pauvres petits tableaux et de toutes ces compositions que je prends la peine de réunir. Séparées, elles périssent, prises ensemble, elles donnent un peu l'idée de ce que j'étais comme artiste et du milieu dans lequel je me plaisais à rêver. » Ce qui est drôle, c'est qu'il parle déjà de lui comme dans une nécrologie, hein, au passé, alors qu'on est qu'en 1862. Il est quand même loin de mourir, Gustave Moreau. Il concrétisera donc son idée. Voilà ce qu'il écrit à Édouard Dainville en 1895. « Mon travail, accumulé depuis 40 ans, m'encombrait à tel point, dit-il, que je ne savais plus où me mettre pour travailler. Tout cela s'abîme. Et bien que je n'ai pas la niaiserie d'attacher une trop grande importance à tous ces ouvrages, je les aime assez cependant, par la peine qu'ils m'ont donnée, pour les laisser intacts après moi et dans le meilleur état possible. Je me suis donc lancé, moi si prudent et si timoré, toutes les fois qu'il s'agit de sortir de mon train-train de travail, je me suis lancé et j'ai voulu profiter de tout mon terrain et des ressources dont je disposais. Je tenais avant tout à conserver les appartements occupés par mon père et ma mère. Et si cela n'eût pas été possible, alors j'aurais absolument renoncé à mon projet. Ces appartements, nous allons nous y rendre dans un instant avec Marie-Cécile Forest. Nous allons visiter l'intimité, si je puis dire, de Gustave Moreau avant de passer à son œuvre.
Un extrait de Werther composé par Jules Massenet, interprété par Pavarotti. Au cœur de l'histoire, vous vous trouvez cet après-midi, Franck Ferrand, au musée Gustave Moreau, avec vos invités Serge Lega, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts, et la directrice du musée Gustave Moreau vous accompagne également, Marie-Cécile Forest.
Vous savez, Céline, ce qui fait la particularité, disons-le, ce qui fait le succès de ce musée Gustave Moreau, c'est que autant qu'un lieu d'exposition, autant qu'un atelier transformé en musée, il est aussi un lieu de vie et l'on a le sentiment d'entrer dans l'intimité de ces personnes du 19e siècle. Alors, Marie-Cécile Forest, vous êtes la directrice de ce musée Gustave Moreau. Vous avez procédé à de très grandes rénovations. Le musée a été fermé pendant combien de temps ?
Le musée a été fermé pendant un an et demi pour... Rénovation.
Donc 18 mois de travaux, vous avez fait ça de façon très précise et très fine. Nous sommes là dans le bureau, il faut peut-être expliquer en deux mots où
voilà,
nous sommes.
Voilà, le bureau c'est une pièce qui a été construite par Gustave Moreau à la fin de sa vie, au moment où il va transformer la maison familiale en grand atelier et en musée. Et cette pièce est un lieu de mémoire au voyage en Italie qui est... à la fois le voyage en Italie qu'il a fait lui-même avec les copies qu'on a ici, par exemple, de Carpaccio.
Ah oui, tout à fait.
Les copies aussi faites à Pompéi, à Herculanum. Et puis également un hommage à son père, puisque c'est grâce à son père, en fait, qu'il est rentré dans cet intérêt pour les beaux-arts.
Et pour l'Antiquité, disons-le, hein, parce qu'il y a de classiques dans l'art aussi.
Voilà, absolument. Puisque son père était allé en Italie avant lui-même, qu'il avait collectionné des vases, des sculptures que l'on présente ici, et puis qu'à sa mort, il lui a légué toute sa bibliothèque. Ici, on a une partie de sa bibliothèque, notamment avec tous les grands livres de l'architecture classique, Serlio, Philibert Delorme.
Alors, je vous propose d'avancer vers l'appartement. Qui habitait précisément dans cet appartement ?
En fait, Gustave Moreau a habité, pas toute sa vie, mais de 1852 jusqu'à sa mort, avec ses parents. Donc, il a habité ici avec sa mère, avec son père, et chaque pièce au moment où il va décider de transformer la maison en musée, va être transformée en lieu de mémoire. Donc nous sommes ici, par exemple, dans le couloir,
oui,
qui est un lieu de mémoire à ceux qu'il a admirés, les artistes qu'il a admirés.
Alors un dallage à cabochon, des balambris un peu hauts, une cimaise couverte de souvenirs, en quelque sorte. Hein, et là, on pourrait presque parler de citation de ses amis, c'est ça ?
Ah, voilà, citation de ses amis. Donc à la fois les amis décédés, qu'il n'a jamais connus, le patronage très très important de Rembrandt. Et puis ici, des œuvres qui lui ont été offertes par Théodore Chassériau, qui habitait avenue Frochot, donc tout près.
Tout près, parce que tous ces artistes vivaient dans ce quartier de la Nouvelle-Athènes, qui a conservé, il faut le dire, parce que les visiteurs, notamment ceux qui viennent à Paris rarement, ne savent pas forcément qu'il y a là une concentration de chefs-d'œuvre architecturaux avec des façades toutes plus jolies les unes que les autres. On a l'impression d'être dans le sillage de Georges Sand et d'Alfred de Musset, hein, c'est dans cet esprit-là.
Voilà, c'est ça, c'est un quartier qui n'a pas été touché par Haussmann.
Exactement.
Donc
voilà.
Ça, c'est très important.
C'est du 19e siècle d'avant Haussmann.
Voilà,
j'imagine que dans cet appartement, il devait autrefois y avoir des offices, des cuisines, etc. Aujourd'hui,
oui,
ce ne sont que des salles d'exposition.
Oui, puisque tout cela a été muséographié par Gustave Moreau. Il avait un message à nous faire passer. Et dans cette chambre, c'est un lieu
Nous entrons dans la chambre, il faut le dire.
Voilà, qui est dédié à sa famille. Donc on a ce double portrait répété, je dis parfois que c'est Oedipe et le sphinx, entre la mère et le fils. Et puis on a surtout un grand chef-d'œuvre qui est ce portrait de Gustave Moreau par Edgar Degas.
Ah, formidable.
Et qui rappelle l'amitié qu'il y a eu entre ces deux hommes au moment notamment où ils se sont rencontrés en Italie, puisque Moreau a été le véritable mentor de Degas au début de son existence. Et il y a d'ailleurs ce lien très très fort entre le jeune Degas, peintre d'histoire, qu'on a beaucoup oublié, et le jeune Moreau, qui lui est resté peintre d'histoire toute sa vie.
Bien sûr. Alors, il faut dire que les murs sont littéralement couverts de dessins, d'eau forte, de gravures, de photographies aussi, dans l'esprit touche-touche qu'on aimait bien au 19e siècle.
Voilà. Hein, c'est... Et il y a même une espèce de modernité dans cet accrochage,
c'est vrai, oui.
Puisqu'il y a une audace de mélanger tous les différents arts. Et c'est voilà, cette présentation audacieuse qu'on a respectée de manière très très scrupuleuse.
Et ce qu'il y a d'amusant et d'unique à ma connaissance, c'est que nous sommes bien dans un musée. Tout ça a été, comme vous l'avez dit, muséographié par Gustave Moreau lui-même, qui voulait laisser à la postérité l'image la plus flatteuse, bien entendu, mais il n'a pas totalement retiré à ses pièces leur dimension habitable. Là, on est dans une chambre, on a presque l'impression qu'on pourrait y dormir, et on est dans un, j'imagine, un boudoir, un cabinet de toilette juste à côté, là.
Oui, on a un boudoir. D'ailleurs, Gustave Moreau a absolument souhaité, dans son testament, faire le legs à l'État français, mais à condition qu'on garde la maison.
Voilà. Et les meubles, hein, il y a encore une jardinière bambou tout à fait fin 19e, là. On est dans ce style éclectique de la fin du 19e siècle. Que notre goût trouverait peut-être un peu surchargé, quoique je lui trouve moi surtout beaucoup d'inspiration, beaucoup d'élégance, et c'est une préfiguration de ce qui se trouve au-dessus, puisqu'il y a les ateliers. On va y aller dans ces ateliers, si
voilà,
vous le voulez.
Les ateliers ont été totalement aménagés par Gustave Moreau pour là présenter la partie plus musée, en fait,
voilà.
Plus monumentale.
Alors, au rez-de-chaussée, on a les œuvres d'assez petites dimensions,
oui.
Et puis quand on ouvre ces placards, ça c'est ce qu'il y a de fascinant, toutes ces tableaux dont certains, nous l'avons vu tout à l'heure avec Serge Legas, extrêmement audacieux, quasiment abstraits. Et puis là, nous allons monter au deuxième, au troisième étage, nous allons monter dans les grands ateliers avec les œuvres monumentales, mais aussi avec de tout petits chefs-d'œuvre. Pour monter, nous allons emprunter l'un des escaliers qui font le charme de ce musée Gustave Moreau. Nous sommes 14 rue de la Rochefoucauld, dans le 9e arrondissement de Paris.
La nouvelle application Europe 1 est maintenant disponible. Avec son nouveau design, retrouvez toutes les vidéos, tous les podcasts, tous les articles de la rédaction. Téléchargez-la gratuitement, mettez-la à jour dès maintenant. Elle est disponible pour tous les systèmes d'exploitation sur smartphone ou tablette. Et à cette occasion, nous vous proposons de jouer pour tenter de gagner un iPhone 6 Plus d'une valeur de 800 euros. Pour vous inscrire au tirage au sort, envoyez le mot de passe direct par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus le coût du SMS, ou appelez le 39 21, c'est 34 centimes la minute. Nous annonçons le nom du gagnant ou de la gagnante aux alentours de 22h. Bonne chance à tous.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous nous trouvons cet après-midi au cœur du musée Gustave Moreau avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Serge Legas, conférencier des musées nationaux, et Marie-Cécile Forest, la directrice du musée Gustave Moreau.
Retour dans la pièce principale de ce musée Gustave Moreau, dans ce qui a été, j'imagine, Marie-Cécile Forest, le grand atelier du maître.
Atelier était au troisième étage.
Il était au-dessus.
Voilà, ici, le deuxième étage était un appartement qui était loué. Fromentin, par exemple, a habité ici lorsque Gustave Moreau est parti en Italie avec ses parents.
Ah, voilà. Alors, quand il décide d'aménager un musée, on supprime les cloisons, si je comprends bien, et l'on crée ce très vaste espace, parce que c'est une grande et belle pièce.
Voilà, tout est fait pour avoir des espaces de la hauteur d'un musée et accrochés comme le salon au 19e siècle et qu'on ne voit nulle part ailleurs.
Alors, on connaît, je pense que la plupart de nos auditeurs ont vu des affiches, des photographies, des programmes, parce qu'on en a beaucoup distribué pour la réouverture du musée. On connaît ce célèbre escalier en colimaçon, très belle pièce de ferronnerie. On connaît les cimaises qui sont d'un rose corail, disons, saumon tirant sur le corail. C'est très fort d'ailleurs, ça crée un très beau décor. Et puis, accroché à ces cimaises, ces toiles dont on peut dire qu'elles sont monumentales, Serge Legas.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit à quel point Gustave Moreau Moreau a su admirablement utiliser cet espace monumental qui, comme Marie-Cécile l'indiquait, qu'il a créé lui-même et qu'il a créé donc pour ses tableaux, qui sont donc les œuvres qu'il a léguées à l'État français. Et vous avez par exemple, Franck, devant vous, l'une de ses peintures monumentales sur le thème
des...
La toile est carrée. La toile est carrée, absolument. Et c'est, ce tableau fait partie exactement de ces peintures que Moreau va d'ailleurs repenser au moment de l'installation du musée qu'il souhaite aménagé dans cette demeure qui a été sa demeure familiale. Et certains de ces tableaux, cela se voit très bien, sont des tableaux qui ont d'ailleurs été agrandis, modifiés au moment où l'idée du musée est en place dans l'esprit de Gustave Moreau. Et on voit par exemple à quel point certaines parties basses des toiles sont dans un état d'inachèvement plus soutenu que les parties hautes.
Toujours l'influence du père et donc de la mythologie et de la culture classique. Si je ne m'abuse, nous sommes là au retour d'Ulysse à Ithaque. Il retrouve Pénélope et ses prétendants, et il va faire une véritable boucherie.
Alors je dirais, mon cher Franck, que c'est votre culture qui vous permet de l'exprimer, puisqu'au fond, quand on regarde le tableau, très franchement, on ne pense pas forcément tout de suite au sujet. Vous avez raison, c'est le thème des prétendants, mais il est vrai que quand on regarde le tableau, on a plutôt l'impression d'une sorte d'orgie funèbre à voilà, ce moment-là, puisqu'on a tout un corps de personnages masculins qui sont évidemment des personnages qui sont en train d'être tués. Ulysse n'apparaît qu'à l'extrême arrière-plan, on devine au niveau de la porte l'arrivée d'Ulysse, dominée par la chouette qui est évidemment le symbole de sa déesse protectrice, c'est-à-dire Athéna, Minerve pour les Romains. Et nous sommes donc à ce moment de la vengeance.
Que l'on voit, c'était les Macs que l'on voit en bleu là sur le côté.
Oh non, c'est tout simplement tous ces personnages qui sont les fameux prétendants, certains encore en vie, d'autres déjà mis à mort, puisque l'on voit évidemment le moment où Ulysse bande son arc pour massacrer tous ceux qui ont essayé de conquérir Pénélope pendant son absence.
Et puis, au centre de la composition, une sorte d'idole dans une mandorle rayonnante.
Et ça, je dirais que c'est le côté éminemment étonnant de la culture de Gustave Moreau, ce que j'appellerais ce côté très syncrétique de sa culture, où il mélange évidemment ici une thématique gréco-romaine, et il la mélange bien évidemment avec des influences qui sont souvent des influences orientales, entre autres, dans les sujets.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'œuvre de Gustave Moreau, il faut expliquer que se mêle ici une inspiration de détails qui pourrait être celle d'un miniaturiste, Marie-Cécile Forestin, hein, c'est-à-dire que tout est très très dessiné, une matité générale rehaussée par de grands aplats de gris et de grisaille, comme si en quelque sorte il avait rajouté du gris sur la toile, et l'impression dans certains endroits, notamment ceux qui sont les plus éclairés dans la composition, qu'on est encore dans une ébauche et que l'œuvre n'a pas été achevée. Et c'est cet ensemble-là qui crée la magie Moreau, si je puis dire.
En fait, cette toile pose, comme tout le musée, la question de l'inachèvement, puisque Gustave Moreau a travaillé pendant plus de 50 ans sur cette œuvre. C'est la mort, finalement, qui a achevé l'œuvre. Et beaucoup de toiles, on en parlera au troisième étage.
Ce sont des work in progress.
Work in progress, et qui ont d'ailleurs valu à Gustave Moreau certaines dissensions entre des commanditaires, lui préférant garder des toiles qu'il considérait achevées et qu'on considérait de leur temps achevées.
Et si je peux me permettre, sur certains tableaux d'ailleurs, l'honnêteté foncière de Moreau est là, puisqu'il y a rajouté en voie d'exécution, ce qui est quand même la preuve de l'inachèvement assumé de la part de Moreau.
J'en aperçois une juste à côté de l'escalier là-bas, qui n'est quasiment même qu'une ébauche.
Oui, la grande toile qui est à côté de l'escalier, les chimères qui sont une sorte d'ode au personnage féminin, c'est-à-dire à une sorte de mise en scène de la féminité. Alors chez Moreau, la femme peut être une femme fatale, mais il y a également une aspiration
côté beauté froide
à la pureté.
Un peu.
Oui, mais et aussi une vraie thématique, puisque vous en avez parlé, Franck, tout à l'heure, Salomé est un des grands thèmes de Gustave Moreau. Donc évidemment, des femmes qui ont vocation parfois à détruire le monde masculin, mais dans le tableau des chimères, il y a évidemment, au-delà de la représentation du vice, la représentation également d'une aspiration à la pureté. Et la femme peut être aussi bien associée à cette dimension maléfique qu'à ce besoin d'élévation spirituelle.
Vous parlez d'élévation, un peu dans toute proportion gardée, comme chez le Gréco, on a l'impression de figures un peu toujours longilignes, comme s'il y avait une déformation, une anamorphose, pour employer un terme d'histoire de l'art, sur l'ensemble de ces toiles, dont certaines d'ailleurs sont nettement plus hautes que larges. Un peu comme ce qu'on appelait autrefois des entre deux fenêtres au XVIIIe siècle. Sauf que là, le but n'est pas forcément d'être entre deux fenêtres. C'est simplement qu'il faut étirer la toile d'une certaine manière.
Oui, et les figures jouent sur cette sinuosité des formes qui est l'une des recherches de Gustave Moreau.
Maniériste, disons-le.
Oui, il y a toute une culture chez Moreau qui est une culture extrêmement importante. On pourrait d'ailleurs rappeler sa formation chez le peintre Picot, qui est un peintre extrêmement académique, pour ne pas dire le grand formateur de toute l'esthétique officielle du 19e. Et Moreau, d'ailleurs, a appris cette qualité exceptionnelle du dessin qui est la sienne dans cet atelier de Picot. Mais ensuite, il y a toute cette culture, entre autres culture acquise lors du voyage en Italie, au contact des grands maîtres de l'art italien.
Une dimension crépusculaire, incontestablement ténébreuse. Je parle notamment de cette toile du Moïse sauvé des eaux, dont on pourrait presque dire qu'elle dégouline de sang.
Oui, il y a une atmosphère qui rappelle également les racines romantiques de l'art de Gustave Moreau. N'oublions pas qu'il était un grand ami de Chassériau, dont on a parlé. Ça sera le grand drame de sa jeunesse que la mort de Chassériau. Et Chassériau l'a totalement initié à ce monde du romantisme, lui a fait découvrir, entre autres, la passion pour la peinture de Delacroix, qui est l'une des choses qui nourrit aussi l'œil de Gustave Moreau.
Ce qu'il y a de surprenant, évidemment, Marie-Cécile Forest, c'est la juxtaposition, la présence simultanée sur l'ensemble de ses œuvres, d'une sorte de perfection formelle, plastique. Je pense notamment à tous ces corps de jeunes hommes et de jeunes femmes parfaits, comme dans l'Antiquité grecque. Et à côté de ça, un décor, un climat, si je puis dire, totalement décadent, assez sombre, disons-le.
Il y a tout ce côté déroutant du musée, puisque le parcours n'est pas chronologique, n'est pas thématique. C'est un parcours esthétique, mais une esthétique dont Gustave Moreau ne nous a pas livré les clés. Et je pense que si vous voulez, le fait que ça reste mystérieux était sans doute une volonté de Gustave Moreau, et ça rejoint en cela Mallarmé, Gauguin, de vouloir garder le mystère de la création.
Nous sommes là devant le Prométhée foudroyé. Je voulais m'y attarder un instant pour faire référence à un certain Rouault, dont il faut là trouver l'inspiration.
Oui,
Serge Legas.
Rouault fut un des élèves de Gustave Moreau, puisque Gustave Moreau a eu dans cet atelier des Beaux-Arts des élèves qui seront extrêmement importants pour l'évolution de l'art moderne. Rouault est évidemment un des disciples, pour ne pas dire le disciple préféré de Gustave Moreau. Et l'influence de la peinture de Moreau est totalement évidente, évidemment, sur Georges Rouault. Je dirais même qu'il y a une dimension aussi qui annonce le mysticisme qu'on peut trouver dans l'œuvre de Rouault.
On ne peut pas se promener dans ce musée Gustave Moreau sans avoir à l'esprit un autre grand artiste de la même époque qui est Oscar Wilde, et pas seulement à cause de Salomé, on est bien dans le même univers d'une certaine manière.
On est totalement dans cette grande pensée qui va culminer dans ce que l'on appellera la pensée fin de siècle. Ce qu'on a parfois appelé, d'un terme peut-être un peu exagéré, le décadentisme, c'est-à-dire ce goût pour une société qui est une société qui est en train de connaître une sorte de dimension de finitude et en même temps un besoin d'évasion dans une sorte d'imagerie qui peut être un âge d'or, qui refuse la notion du progrès. C'est une des bases du symbolisme.
J'ai cité Baudelaire au début de cette émission parce que, justement, on est là dans le courant symboliste. Si on devait et sans devenir didactique, comme ça, en trois mots, Serge, si l'on devait définir le symbolisme.
Alors, ça serait en trois mots très difficile, je dirais. Alors, je vais prendre une formule un peu provocatrice. Je dirais que le symbolisme, c'est une sorte d'auberge espagnole. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut y apporter chacun quelque chose. L'idée du symbolisme, c'est un dépassement de la réalité quotidienne, de la banalité du monde quotidien. Et c'est le besoin de retrouver une sorte d'âge d'or mythique. Voilà pourquoi, dans le symbolisme, on peut trouver des artistes très différents. Évidemment, en France, Gustave Moreau, Puvis de Chavannes, Odilon Redon. Mais on pourrait, Marie-Cécile en a parlé, penser à Gauguin et l'école de Pont-Aven, puisque rappelez-vous de la phrase de Gauguin qui disait « Les impressionnistes ont peint autour de l'œil, nous allons repeindre au plus profond de la pensée. » Ça, c'est une démarche éminemment symboliste.
Et c'est vrai que c'est la psyché qui nous saute au visage lorsque nous nous promenons devant ces extraordinaires, j'allais dire fresques, ce sont des toiles, mais elles sont à la dimension, à cet étage de fresque. Alors, justement, quand on sort du petit appartement un peu étriqué du premier étage, qu'on arrive ici, dans cet immense espace et devant ces toiles monumentales, on a l'impression que c'est l'acmé, que c'est le clou du spectacle. Mais non, il y a encore un étage avec des choses extraordinaires. Alors, puisque cet escalier est là qui nous tend ses marches, je vous propose de les emprunter et de nous retrouver dans un instant, juste au-dessus.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, dans ce bel écrin qu'est la maison de Gustave Moreau.
Ah, chère Céline, quelle profusion d'œuvres, quelle plongée dans une esthétique si particulière, celle de Gustave Moreau. On retrouve ici, au troisième étage du musée, dans ce double atelier d'une certaine manière, le même principe qu'au rez-de-chaussée, avec cette fois de très beaux dessins. Et si quelqu'un avait jamais douté des talents de dessinateur de Gustave Moreau, évidemment, en tournant les différents volets qui nous présentent des œuvres plus ou moins achevées, des études, des dessins, des analyses, anatomie absolument incroyable et des académies dans ce qu'elles ont de moins académique, si je puis dire, ils n'en douteraient plus du tout. Alors Serge Legas, il faut faire dans cette extraordinaire floraison, il faut faire des choix. Loin d'épuiser une matière, il n'en faut prendre que la fleur, n'est-ce pas? Et peut-être que la fleur, c'est ce célèbre Jupiter et ses mêlées. Alors là, nous sommes en face d'une toile parfaitement achevée.
Je dirais que c'est un tableau qui est un peu l'exception au sein du musée, puisque ce tableau ne fait pas partie du legs Moreau. C'est un tableau qui a été donné pour l'ouverture du musée par un des grands collectionneurs de Moreau qui était Léopold Goldschmidt. Ce tableau est donc entré en 1903 dans la collection du musée. Et effectivement, là, nous avons affaire à un tableau totalement achevé sur cette thématique mythologique de Jupiter, des amours de Jupiter et de la mortelle Sémélé, la pauvre Sémélé qui est ici en train de mourir puisque Sémélé n'a pas cru à la toute-puissance de Jupiter. Elle en est foudroyée.
Je parlais tout à l'heure de rubis et de lapis lazuli, les couleurs sont nettement plus franches et plus assumées sur cette toile.
À ce tableau qui montre cet extraordinaire raffinement du travail de Moreau. Moreau est un artiste qui travaille avec une extrême concision, une lenteur, des couches sur couches sur couches, des détails très travaillés. D'ailleurs, on a parlé de son amitié avec Edgar Degas. Degas, qui avait toujours un grand sens de l'humour, disait de Moreau, il voulait nous faire croire que les dieux de l'Olympe portaient des chaînes de montre. Ce qui est un petit peu le genre de détail que l'on peut voir dans un tableau comme celui-là.
Notamment des brocs. Brocart constellé de pierreries entièrement perlées, d'incroyables colonnes. Alors certaines sont d'albâtre, d'autres sont de malachite, elles-mêmes incrustées de pierres rares, enfin tout ça.
Et toute une architecture, c'est Byzance, absolument, c'est et qui n'a rien à voir avec le monde gréco-romain au sens strict. On pourrait être... Alors ça, c'est aussi un des grands principes du symbolisme. Je dirais que le symbolisme revendique l'anachronisme par excellence. Et c'est une chose que Moreau montre admirablement.
Il ne faut jamais manquer l'occasion, lorsqu'on se promène ici, de jeter des coups d'œil assez généraux, hein, embrassant sur l'effet global de ces toiles, sur ce fond couleur de corail. C'est très spectaculaire, bien entendu.
Et c'est effectivement, ce sont ces fameux fonds qui sont ces fonds dans ces tons de toutes les variations de rouge possibles qui vont évidemment du rouge pompéien au rouge bourbonien. Ici, on est plus dans un ton de corail et qui met totalement en valeur, bien évidemment, la production de Gustave Moreau.
Vous teniez, parmi toutes ces œuvres, à ce que nous nous arrêtions devant l'apparition, Serge Legas.
L'apparition, c'est un des sujets par excellence de Moreau, puisque c'est le thème de Salomé. Salomé qui a donc obtenu la tête de Saint-Jean-Baptiste. Elle a demandé cette tête pour venger sa mère Hérodiade. Et Gustave Moreau a traité toute une série de peintures sur ce thème de l'apparition, c'est-à-dire le thème, d'une certaine façon, de la matérialisation du remords qui est matérialisé par la tête sanglante de Saint-Jean-Baptiste apparaissant à Salomé.
Sanglante, c'est le moins qu'on puisse dire.
Hein. C'est très sanglant, absolument.
Il reste quelques vestiges qui traîne sous le cou décapité, c'est assez terrible.
Et l'on voit, alors vous en parliez Franck, ce fond d'architecture totalement étonnante avec ici, alors là, une très nette référence au monde oriental, pour ne pas dire extrême oriental, et ce qui est tout à fait passionnant.
On se croirait un peu à Angkor.
Ah mais complètement, on est tout à fait dans cette culture. Alors, n'oubliez pas une chose, Moreau n'a jamais fait le voyage en Orient, mais Moreau, nous avons sa carte de copiste à copier les miniatures mongoles aussi bien au Louvre qu'au cabinet des estampes de la bibliothèque.
On pourrait croire que sur une peinture encore fraîche, il s'est amusé à gratter la peinture pour en retrouver le fond, alors qu'en fait, non, ce sont des filigranes qui sont surimposées.
C'est-à-dire que Moreau travaille couche sur couche. C'est-à-dire que quand il part sur une couche de fond qui est sombre, il reprend un dessin en clair, d'où cette impression ici d'un dessin blanc. Et logiquement, il manque la couche finale, qui serait cette couche de surimpression chromatique qui donnerait ces sortes de matières. Vous aviez parlé de rubis et de pierres précieuses. C'est sur ces éléments blancs qu'on devait Beauvais trouverait la couche définitive.
Alors, ce personnage féminin au contour et au modelé parfait, qui peut faire songer à l'Aphrodite de Cnide, nous amène au sujet de la vie privée de Gustave Moreau. Qu'est-ce qu'on en sait, finalement?
Alors, la vie privée de Moreau reste évidemment un grand mystère, puisque l'on est certain que Moreau a eu une grande amie de cœur qui était Alexandrine Dureux. Et Alexandrine Dureux ne vivait pas à l'intérieur du bâtiment où nous nous trouvons, même si le boudoir recueille le mobilier qui était celui d'Alexandrine. Mais on l'a dit, c'est un lieu de mémoire. Alexandrine vivait de son côté, dans un autre hôtel particulier. Mais c'est vrai que Moreau a rencontré Alexandrine en 1859, tout de suite après le fameux voyage en Italie. Et Gustave Moreau a vécu avec elle une très, très belle liaison. Liaison était-elle une liaison au sens traditionnel? Est-ce une sorte d'amitié amoureuse?
D'amour de tête, comme on pourrait dire.
Tout à fait, c'est une des choses qu'on a évoquées. En tout cas, la mort d'Alexandrine en 1890 a été un très grand choc pour Gustave Moreau et un choc très violent, dont nous avons d'ailleurs, mon cher Franck, la preuve à travers le très beau tableau qui est en face de nous et qui représente évidemment le thème d'Orphée sur la tombe d'Eurydice. Je dirais que c'est vraiment le tableau qui est le tableau le plus autobiographique de tout le musée, puisqu'évidemment Orphée pleurant Eurydice, c'est le thème de Moreau pleurant la mort d'Alexandrine.
Dans une inspiration qui là fait directement référence à Odilon Redon, dont vous parliez tout à l'heure, hein, avec cette pleine lune et ses frondaisons en rouge sang.
Et ce travail très exceptionnel sur les fonds paysagers, ça c'est une chose que ces dernières années on a beaucoup mis en valeur sur l'œuvre de Moreau, c'est également l'importance des paysages d'arrière-plan au niveau des tableaux. Alors quand on parle des femmes chez Moreau, on pourrait peut-être regarder l'un des tableaux qui est une ode à la beauté féminine, c'est ce tableau intitulé Les Licornes. Les Licornes, c'est un des tableaux qui représente évidemment le symbole de pureté, le symbole de la femme idéale, celle qui représentait ici Vierge, personnage féminin.
Dans une inspiration néo-médiévale.
Complètement, on est dans un univers où le monde médiéval est présent. Et quand je parlais de paysage, regardez les audaces de ce paysage où les tons de rose, de bleu et de vert se mêlent avec une harmonie tout à fait exceptionnelle.
Et dans une tension vers ce qui deviendrait presque de l'abstraction. Vous parlez de la splendeur des anatomies féminines, les anatomies masculines ne sont pas mal non plus chez Moreau.
Alors c'est là où évidemment chez Moreau on se rend compte que le thème de l'homme et je dirais du jeune homme est extrêmement important puisque beaucoup de personnages masculins relèvent d'une esthétique éphébique, on a vraiment des corps d'éphèbes. On sait d'ailleurs que Moreau utilisait des modèles extrêmement jeunes, par exemple à l'étage qui est en dessous de nous, le thème de Jason, le grand héros qui a conquis la Cloison d'Or, et bien nous savons que le modèle qui a posé pour Jason est un jeune garçon de 13-14 ans. Et évidemment, on a parfois pu parler chez Moreau d'une fascination pour le corps masculin, un monde féminin qui est parfois négatif, Salomé, Hélène de Troie, symbole de la guerre.
Éthéré, en quelque sorte.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ambiguïté et qui peut expliquer, vous en parliez, la passion de tout un monde pour Moreau. Oscar Wilde, Marcel Proust ont éminemment aimé l'œuvre de Gustave Moreau.
Moreau a touché à toutes les techniques, si je puis dire. Donc, on a vu là beaucoup d'huile sur toile. Il y avait en bas des fusains, on a vu des mines de plomb, beaucoup de dessins là sous ces qui sont joliment protégés par des petits rideaux. Il y a un côté ludique dans la visite de ce musée Gustave Moreau. Le visiteur, le spectateur est appelé à faire lui-même sa propre visite, à toucher les œuvres. C'est extraordinaire, c'est rare, c'est unique.
Je dirais que c'est unique, c'est absolument unique. C'est le seul musée où véritablement nous avons la possibilité de nous installer devant ces meubles avec les volets de dessins. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons dans ce musée un grand public d'étudiants, beaucoup d'étudiants des Beaux-Arts. Je reconnais que certains de mes étudiants d'architecture d'École du Louvre viennent régulièrement travailler, évidemment, sur une collection qui est une collection à disposition, ce que l'on n'a dans aucun musée.
Nous avons la chance d'avoir un joli coup de soleil qui vient traverser ces grandes verrières orientées à l'ouest et qui fait chanter la dorure et les sculptures de tous ces cadres, car toutes les toiles sont encadrées aussi, hein, il faut le dire.
Oui, Moreau ayant décidé dès 1895 que cette maison familiale deviendrait un musée, Moreau a donc absolument tout prévu. Et c'est d'ailleurs une des choses qui est aussi assez extraordinaire, c'est à quel point les trois dernières années de sa vie ont été consacrées à la création du musée dans lequel on se trouve, dont les encadrements très importants aussi.
Je ne sais pas si on peut les entendre au micro, mais quand on fait jouer tous ces volets, on tombe aussi sur certaines très belles aquarelles.
Alors ça, je crois que c'est un des bonheurs de tous les visiteurs du musée, c'est le fameux meuble des aquarelles. meuble, qui est un meuble que Moreau a lui-même envisagé, a lui-même conçu. Et ce meuble permet, encore une fois, de découvrir des merveilles les unes par rapport aux autres, puisque c'est un meuble à transformation et qu'à l'intérieur, on a tous les aspects également du talent de Moreau, de paysage qui pourrait rappeler une production paysagée du 19e dans la mouvance de Corot, par exemple, jusqu'à des œuvres beaucoup plus partant vers une sorte de liberté et d'abstraction formelle.
Alors, de façon très égoïste, si vous le voulez bien, Serge Legas, si vous le voulez bien, Marie-Cécile Forest, nous allons bientôt poser nos micros et nous en mettre plein les yeux, si je puis dire, ce que je ne peux qu'encourager nos auditeurs à venir faire ici, au 14 de la rue de la Rochefoucauld, dans le 9e arrondissement de Paris. Je vous dis encore un mot de l'aquarelle et ensuite, c'est à vous de venir visiter vous-même cet endroit extraordinaire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Julien sur les origines de la peinture à l'aquarelle.
Vous avouerez, Céline, que nous avons vraiment un certain sens de l'à-propos dans cette émission. Alors d'où ça vient, l'aquarelle ? Le terme, c'est un terme italien, aquarello, ça veut dire la détrempe en italien. Ce sont des pigments broyés qui sont liés par de l'eau gommée. L'eau gommée, c'est de l'eau distillée, l'eau la plus pure possible d'un côté, et puis de la gomme arabique, une méthode que l'on retrouve dans les toutes premières œuvres de l'humanité, puisque c'est quasiment la méthode qu'on utilisait déjà pour colorer les tombeaux égyptiens et même sous certaines réserves pour certaines peintures murales dans la préhistoire. Ce sont les Chinois qui vont ajouter ces colorants, qui vont savoir les dissoudre dans l'eau les premiers. On voit apparaître cette technique en Occident, notamment en France au Moyen-Âge, avec notamment des préparations d'œuvres. Ça, c'est une technique qui longtemps, notamment à la Renaissance, est utilisée comme une première étape dans la fabrication de vitraux, de tapisseries, de tableaux, etc. Et s'il y a un nom à retenir, avec celui de Gustave Moreau, bien entendu, c'est celui d'Albrecht Dürer, puisque Dürer est le tout premier à considérer l'aquarelle comme une fin en soi, en quelque sorte, comme une œuvre à part entière avec, vous savez, ces merveilleux paysages, des animaux, etc., de Dürer à l'aquarelle. Au XVIIIe siècle, l'aquarelle devient quasiment un sport national en Angleterre. Ce sont les Anglais qui vont lui donner ses lettres de noblesse, et notamment les voyageurs anglais qui profitent de cette technique tellement pratique pour prendre sur le vif un certain nombre de croquis dans les visites qu'ils peuvent effectuer. Nous avons parlé récemment avec Serge Legas de William Turner. Turner va porter cet art à des sommets, bien entendu, mais aussi Peter de Wint, mais aussi Gertin, dont nous parlions dans la même émission, bien entendu. En France, les grands maîtres de l'aquarelle s'appellent Eugène Delacroix, s'appellent Paul Cézanne, et entre les deux s'appellent Gustave Moreau. Merci infiniment, cher ami, merci infiniment, Marie-Cécile Forest, de nous avoir reçus chez vous, si je puis dire, ou chez lui, dans cet atelier musée de Gustave Moreau. On peut peut-être raconter en deux mots la façon dont on vient visiter. Quels sont les horaires ?
Les horaires sont différents, en fait, selon le jour de la semaine. C'est en continu de 10h à 17h30, vendredi, samedi et dimanche, et une interruption à l'heure du déjeuner.
Parfait.
Pour les autres jours.
Et il y a une journée sans ?
Oui, le mardi, comme tous les musées nationaux.
Voilà, donc venez visiter le musée Gustave Moreau. Abstenez-vous le mardi. Merci beaucoup de votre accueil.
Merci.